Quand on regarde de près comment cette affaire a été présentée, ça date pas de la loi de la semaine dernière. Ça remonte à un peu plus loin. D'ailleurs, on retrouve dans cette loi, parce que en plus, ces gens-là nous accusent, nous, qu'on fait des commentaires désobligeants sur cette loi, de ne pas l'avoir lue. Tu vois, tous ces gens qui critiquent cette loi, ils l'ont pas lue, ils savent pas lire, etc. Nous, on est des ignares.
Oui, ils sont 100 ans. Nous,
on est des ignares totaux, on ne comprend rien à rien, on ne sait pas lire un texte, tandis qu'ils connaissent le texte et ils font ça pour le bonheur du peuple, c'est bien connu. Hein, et donc, on va voir comment ils font le bonheur du peuple. Alors, du coup, je me suis mis à lire cette fameuse loi. Et c'est bien parce que, je te disais, ça ne commence pas d'hier. Le préambule du projet de loi, tu sais ce que c'est ? C'est le rapport qu'a fait M. Badinter pour François Hollande il y a quelques mois.
Mais Badinter, il ne connaît rien au droit du travail.
Ben non.
Rien
du
tout.
On est bien d'accord. C'est bien pour ça qu'il a fait un préambule.
Après, bon, il y a de la chance. Il y a une femme milliardaire.
Ouais, quand même.
D'après mes souvenirs.
Et donc,
il n'a jamais rien foutu de sa vie. On lui a filé.
C'est Madame Publicis.
Monsieur le mari de Madame Publicis.
Voilà, c'est ça.
On lui a filé le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort, mais il fallait bien que la France fasse comme tout le monde.
Ben, bien entendu.
Voilà.
Donc, c'est pas mal. C'est déjà bien. Mais je pense que la peine de mort devrait s'appliquer à ce texte du projet de loi, là. Ça serait une exception qui confirme la règle. Et bon, je pense que les gens commencent à comprendre. J'espère que les principaux intéressés, c'est-à-dire les étudiants, etc., qui vont être les premières victimes juste après, vont commencer à vouloir. D'ailleurs, ils commencent à bien comprendre, puisqu'ils prévoient déjà, dès le 9 mars, de faire quelque chose avec les organisations syndicales. Donc, on commence à avoir un mouvement fort d'opposition à ce texte, avec, comme mot d'ordre, l'abrogation.
Voilà. Donc,
l'abrogation.
Vous pourrez suivre un peu dans l'agenda de Radio Campus Lille dès qu'on a les informations.
Ouais.
On vous les mettra dans
l'agenda.
C'est
extrêmement important de se mobiliser pour l'abrogation. Non seulement la pétition, etc., mais tout ce qui va permettre effectivement de leur dire qu'on ne veut pas de ça. On voit déjà bien comment ça se passe. Il y a des rencontres entre la CGT, la CFDT, FO, etc. Et la CFDT est en train de chercher le plus petit morceau que pourra lui accorder M. Hollande pour se défiler et dire vous voyez ce qu'on a déjà obtenu, hein, alors qu'ils n'auront rien obtenu du tout, comme d'habitude. Et donc on va être avec un système qui va être quand même assez difficile à négocier de ce côté-là.
Voilà, il y a une pétition en ligne actuellement. Ouais. Alors, c'est une pétition. Alors, je vais regarder le nombre de votants. 888 157 votants. Donc, on sera à 900 000 ce soir à 18h30 pour l'émission. C'est l'heure de le mettre. Bon, n'hésitez pas à la signer. Ça a l'air de les inquiéter un tout petit peu. Ça a même légèrement découragé la ministre du Travail.
Oui.
Elle a dû prendre un congé maladie de complaisance. Bon, mais ça, c'est que le début. Après, allez un peu vous renseigner sur ce que vont faire les syndicats. Suivez-les.
Il faudra regarder de près sa durée de travail, madame la ministre, parce que dans le projet de loi, il y a des indications très précises sur la durée du travail.
D'accord. Il n'y a pas des condamnations pour les congés maladie de complaisance ?
Je ne sais pas, mais ça ne doit pas être triste quand même à ce niveau-là. Voilà. Ils n'ont pas prévu les autres applications du... Tout ce qui est problème répressif, etc., le reste, ça reste. Il n'y a pas de souci.
D'accord.
Donc on est dans l'ancienne formule sur la répression. Par contre, là, c'est sur ceux qui entraînent la répression. Ça change beaucoup. Alors, M. Badinter, dans son préambule, dit ceci... Je vais lire parce qu'il faut que nos auditeurs sachent qu'on sait lire. Article 1er, section 1er, liberté et droit de la personne au travail. Article 1er, mais c'est vraiment magnifique. Hein. On découvre quelque chose hein, quand même. Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation au travail. Ah bon ?
Les droits fondamentaux.
Les droits fondamentaux.
Ah bon ?
Donc, on est bien content de le savoir. Et alors ? Tout de suite après, le deuxième paragraphe de cet article au premier dit, attention, parce que c'est là que ça va devenir assez comique, si on peut dire, des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux. Alors, il y a des libertés et des droits fondamentaux qui sont bons, et puis il y a des libertés et des droits fondamentaux qui sont mauvais.
Et puis il y en a qui sont justifiés.
Il y en a qui sont justifiés, d'autres injustifiables. Alors, attends, c'est bien. Ou ils peuvent être limités par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Du bon fonctionnement d'entreprise. Mais ça veut dire quoi, ça ?
Ça va simplifier les choses. Regarde, là, les centrales nucléaires, on va prolonger leur vie.
10 ans.
De 10 ans. Il faudra de toute façon les démonter. C'est un sacré travail.
Ouais.
Il est nécessaire que tu ailles chercher les pièces métalliques là-bas. Bon, fortement radioactives, mais c'est pour le bien de l'entreprise. Alors,
et ton droit fondamental à la santé.
Dépêche-toi. Dépêche-toi. mais surtout pas ta combinaison. Ça coûte cher.
Ouais, et puis, c'est pas pratique pour démonter.
Voilà, c'est pas pratique pour démonter.
On trouvera quand même des salariés qui le font et qui viendront d'ailleurs, comme on a l'habitude de le faire avec ce genre de...
Qu'on fait déjà.
Hein. Donc, pour l'entreprise, et si elles sont proportionnées au but recherché, moi j'aimerais bien qu'on m'explique quel est le but.
Le but, c'est de faire des bénéfices.
Excuse-moi,
dans l'entreprise, oui.
Une entreprise...
Est-ce que les salariés peuvent se prostituer pour leur patron?
C'est une entreprise, ça.
oui.
Donc cet article premier est déjà en lui tout seul un poème, je veux dire. Que quelqu'un qui est constitutionnaliste fasse un avant-propos, un projet de loi, et qu'il donne un préambule de ce type-là, j'en reviens pas, quoi. Donc on est sur quelque chose où on dit tout et son contraire, et où on va tout ouvrir... dans le cadre du Code du travail.
Mais il est constitutionnaliste, il veut que sa femme continue à se constituer une fortune. Oui. C'est comme ça qu'il doit l'interpréter.
Ça doit être une interprétation dans ce temps-là, tu vois. Donc. Alors, après, même chose, donc toujours dans ce fameux préambule, parce que le préambule, il comporte une soixantaine d'articles, je vais reprendre exactement, parce qu'on va dire après qu'on n'a pas su lire, il comprend exactement 61 articles. Mais c'est des petits articles, d'une ligne à chaque fois. Et donc, par exemple, l'article 13 te dit ceci, le contrat de travail est à durée indéterminée. Ouais, j'ai eu peur, je pensais qu'il allait devenir précaire, etc. Donc, vous voyez, on est des menteurs. Quand on dit que ça va précariser, c'est pas vrai du tout,
non.
André. Non. Tu vois, M. Badinter dit le contrat de travail est à durée indéterminée. Il ajoute immédiatement après, parce que c'est là que ça devient aussi assez intéressant, il ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi. Or...
Parce qu'on va interdire les contrats. La loi va interdire les contrats. Certains contrats de travail à durée indéterminée, c'est intéressant.
Et en plus, le contrat de travail peut prévoir une période d'essai d'une durée raisonnable. Soyons enfin raisonnables en France. Monsieur mon patron, si vous voulez être bien raisonnable avec moi, je voudrais un contrat à durée indéterminée. Non. Ah bon ? Vous voulez une réunion, un contrat à durée déterminée ? Merci, s'il vous plaît. Petit contrat à durée déterminée. Pour combien de temps ? Raisonnablement. On ne sait pas combien, on ne sait pas à partir de quand on va pouvoir agir, si c'est raisonnable ou pas raisonnable. Il y a toute une série de sociétés qui ont été condamnées justement pour la multiplication de contrats à durée déterminée alors qu'ils devaient transformer des contrats en contrats déterminés.
Enfin,
article 14, l'affaire est pliée.
C'est résolu, une entreprise, elle pourra changer de toute façon et licencier les salariés qui refusent un changement de contrat de travail.
Attends, on y arrive. Article 26, tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux. On va voir qu'est-ce que ça donne après dans le projet de loi.
L'argent, les dividendes des actionnaires, c'est sérieux.
C'est toujours le préambule, ça. Et après, le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique ne peut être prononcé sans que l'employeur se soit efforcé de reclasser l'intéressé. Sauf, ce qui est bien dans tout ce texte, c'est qu'il y a toujours un sauf ou mais ou un truc comme ça. Sauf dérogation prévue par la loi. Ah bon ? Mais alors après, il faudra voir cette loi justement parce qu'elle n'est que dérogation. Et on va y arriver parce qu'on a bien su lire cette loi et c'est une loi qui est véritablement ignoble et qui devrait être réduite à néant si on veut continuer à travailler dans des conditions normales en France et pas faire comme un retour au XVIIe ou XVIIIe siècle. Même chose pour la durée du travail. La durée du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente. Attends. La loi, jusqu'à présent, c'était le texte de référence. On est en train de te dire là article 33 de M. Badinter, que les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente sur le travail par rapport à la loi. Ah bon ?
Mais la loi, c'est que tu ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour.
Ça doit être ça. Et tu ne dois pas pouvoir travailler plus de 7 jours par semaine.
Par semaine, voilà.
Et bon, donc, tu vois, mais on va y arriver parce que tu es en train de rigoler là, mais c'est pas rigolo du tout.
C'est triste, je sais.
Donc, tu vois, c'est quand même terrible. Quand tu vas regarder sur les horaires, je t'ai concocté la totalité des horaires qui sont prévus sur la journée, sur la semaine et sur une série de semaines, plus les congés et la manière de rémunérer les heures supplémentaires, là, on va plus rigoler du tout. Et nos petits jeunes qui sont en train de bosser ici à l'université et qui vont s'en prendre plein la poire quand ils vont repartir au boulot, s'ils en trouvent. Mais
oui,
ils vont en trouver beaucoup avec les conditions qu'on va leur mettre. Là, ils vont en trouver beaucoup, je t'assure. Donc, eux, ils vont pas rire. Donc, repos. Le repos. Attends. Quelque chose de sacré en France. on est quand même un pays où on est la fille aînée de l'Église. Hein, donc, il faut être sérieux. Donc, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Donné le dimanche.
Ah, mais on ouvre les magasins le dimanche.
Sauf dérogation dans les conditions déterminées par la loi. Sauf. Attends, ah non mais... Et tout salarié a quand même droit chaque année à des congés payés. Hein. Bon, merci. Monsieur Badinter, merci, parce que je pensais qu'on n'allait même plus avoir droit à des congés payés. Et donc après, on arrive effectivement à des modalités d'application. Et donc tu vois, l'article 55 est quand même assez grandiose, puisqu'il dit « La loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir, tranquillou, des normes différentes de celles résultant des lois et règlements, ainsi que des conventions de portée plus large. » Donc tu as par exemple toutes les lois qui sont dictées par les conventions internationales au niveau de l'Organisation internationale du travail.
Oui, c'est vrai,
bon, qui par sont. Exemple. Ouais. Mais bon, on a le code du travail, mais bon, on a des lois, mais on s'assoit dessus. Puisque là, très clairement, la loi détermine les conditions légitimes dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes de la loi. Bon, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de loi. Ou alors, je ne sais pas lire. Hein. Mais bon. Ça doit être ça, hein, en vrai, remarque. Je pense que je ne sais pas lire du tout et que par rapport à ça, bon.
Alors, il n'y a plus de loi, non, mais c'est le travail au pas de loi.
Ça doit être ça, ouais. Ça doit être exactement ce genre de truc. Parce que on a une création de commission de refondation du code. Tu vois, normalement, tout ça, ça devait être négocié. Si j'ai bien compris, ils n'ont même rien négocié avec les syndicats, puisque les syndicats ont eu le texte comme ça. Et alors, le comble, cette refondation. Avec refondation du code, hein, elle a pour objectif de donner une place centrale à la négociation collective, et d'élargir ses domaines de compétences et son champ d'action dans le respect du domaine de la loi reconnue par la Constitution. Tu parles. On vient de dire exactement le contraire sur les lois et sur la Constitution, et on dit négociation collective. Alors, ce qui est très très bien, c'est que partout dans la loi, parce que là, maintenant, je vais commencer sur la loi. Hein, donc la loi, elle commence page 8. Du texte qui est publié partout. Hein. Donc, Madame Ockren, j'ai bien lu le texte, hein, je vous rassure. Monsieur Alain Duhamel aussi, j'ai lu le texte. Hein.
Oui, mais
regarde, je suis moins intelligent que vous, c'est clair.
Regarde, tous ces gens, ils n'arrêtent pas de travailler, ils font des heures à crever. Ouais. Hein, le réunion au restaurant, le siècle.
C'est dur.
Voilà, c'est très difficile.
Bilderberg, c'est dur aussi. Oui, Davos, bah, ça doit être très dur aussi. Et donc, bon.
Il y a plein de policiers, tout ça, c'est pas agréable. Hein.
Non, il fait froid.
En plus.
Oui, il fait froid. Donc, c'est pas bien du tout. Et donc, la loi. Madame Ockren et Monsieur Alain Duhamel commence page 8. Alors, ça commence par un chapitre premier qui porte sur la durée et l'aménagement du travail. Bon. Alors, je vais commencer par un petit amuse-gueule, parce que ça commence aussi par un petit amuse-gueule, ce truc-là. Je pensais qu'on allait parler tout de suite 35 heures, etc., mais pas du tout, non. On commence par travail effectif. Et là, tu t'aperçois que, un, il y a un paragraphe 1 qui porte sur des données d'ordre public. Ah bon ? Après, tu as un paragraphe 2 qui commence par le champ de la négociation collective. Donc, si je comprends bien, l'ordre public, c'est la loi. Hein. La négociation collective, après, c'est l'ouverture grandiose que l'on fait à la négociation collective et au dialogue social.
C'est-à-dire, vous signez ou je ferme la boîte ?
Voilà.
Ou je la transfère.
Et après, tu as même un paragraphe 3, si ce deuxième paragraphe n'est pas suffisant, qui parle de dispositions supplétives.
Ah.
Donc, quand tu n'es même pas encore contente de ce que tu as pris au niveau du deuxième niveau, tu peux en avoir une couche supplémentaire si tu contestes. Donc, par exemple, là, c'est, franchement, là, il parle du travail effectif. Alors, travail effectif, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on a notamment là-dedans le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage. Alors, que dit l'article L ? Si on est là, on est dans la loi, on est dans le code du travail. Hein, donc, c'est l'article L3121.3. Qui dit ceci. Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, règlements intérieurs ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Et ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Ah ben, ça me rappelle quelque chose d'il n'y a pas longtemps, ça. Je ne sais pas si tu as vu la polémique avec Airbus.
Airbus, oui.
Airbus, auparavant, les temps en question étaient compris dans la durée légale du travail. Ils avaient, je crois, de l'ordre de quelques dizaines de minutes par jour. Maintenant, c'est terminé. Hein. C'est plus dans la durée du travail. Tu dois arriver sur ton lieu de travail, habillé et prêt à bosser. Hein.
Voilà, c'est comme chez Chronodrive, par exemple, à Auchan pour les caissières. Voilà.
Donc, on doit arriver prêt à travailler. Hein. Ça suffit maintenant d'avoir des temps de pause pour pouvoir te faire avec la cravate rouge, etc., etc. C'est fini. Donc ça...
Oui, avoir des temps de pause, par exemple, pour aller se laver les mains,
ouais.
Quand on va aux toilettes, et après manier des produits, pour pouvoir manier des produits, comestibles, ouais. Frais, on se lave plus les mains.
Ça, c'est l'ordre public. Donc, tu vois, on dit déjà dans l'ordre public, on devrait pouvoir avoir peut-être du repos ou de fin financière. Airbus n'a pas dit ça du tout. Hein. Il a dit, maintenant, terminé, les temps d'habillage, déshabillage, c'est plus dans la durée légale du travail. Les syndicats étaient absolument vent debout contre ça, mais on est passé à la négociation collective. Et on vient de s'apercevoir que des syndicats ont signé ce texte qui prévoit effectivement qu'on a pu ça, compte tenu de compensations. Alors les compensations, je te dis pas qu'est-ce que c'est, hein, c'est pas terrible, c'est quelques heures par-ci, par-là. Et donc ça relève de la disposition, champ de la négociation collective. Et on te dit, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut un accord de branche, donc avant on avait des négociations de branche, là c'était à peu près balisé parce que ça s'appliquait à tout le monde. Toutes les entreprises d'une même branche devaient appliquer les accords qui avaient été négociés au niveau syndical. Tandis que là, c'est même plus ça. Hein. Tu vas passer à une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement même. Donc on va être dans un système où on pourra prévoir éventuellement une rémunération des temps de restauration et de pause, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. Ah bon ? Ça veut dire qu'on peut ne pas reconnaître ça comme du temps de travail effectif ?
Pourtant, tu es dans les locaux de l'entreprise.
Bah oui.
Suivant ce que tu fais, les temps d'habillage sont différents.
Oui.
Hein, une secrétaire, je ne pense pas qu'elle s'habille. Hein. Tandis que le gars qui est devant la machine, voilà.
Donc on est sur un système qui est quand même assez particulier, puisque ta convention, ton accord va pouvoir déroger, il va pouvoir dire, c'est plus du temps de travail, et je t'accorde quand même un carambar en contrepartie que t'as perdu déjà 20 minutes ou 30 minutes de ton temps de travail.
Oui, et puis si t'es pas d'accord, je transfère l'entreprise. Et en plus, je touche les subventions du conseil régional, des communes, des régions, des départements nationaux, ce qui touche beaucoup. Hein.
Ouais. Et donc tu vois tout ça. Toute la loi, elle est bâtie comme ça. C'est-à-dire que à partir de ta page 8, tu as toujours ces trois dispositions. D'ordre public, la loi, la négociation collective, c'est-à-dire tout ce qui dit le contraire de ce qu'il y a au-dessus.
Oui, voilà.
Et après, les dispositions supplétives qui t'en rajoutent une couche. Donc, par exemple, la durée du travail qui est très contestée. Moi, je te dis, je pensais qu'on avait parlé tout de suite des 35 heures.
La durée du travail, c'est avant tout la durée au-dessus de laquelle on est obligé de vous payer en heures supplémentaires.
Voilà, c'est notamment ça. Hein ? Alors, tu vois ici... Durée quotidienne du travail. On ne commence pas par 35 heures. Et on ne commence pas par 7 heures par jour multipliées par autant de jours. On dit durée quotidienne maximale tout de suite. On te parle du maximum que tu peux faire. Alors, d'ordre public, la durée quotidienne du travail par salarié ne peut excéder 10 heures. Donc on dit tu ne peux pas bosser plus de 10 heures par jour. Ça, c'est d'ordre public. La négociation collective te dit... Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou un accord de branche peut prévoir le déplacement de la durée maximale à 10 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ça ne puisse pas excéder 12 heures. Donc tu ne passes d'une journée
donc,
de travail
10 heures maximum, mais pas plus de 12, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais attends. Alors, attends, s'il n'y a pas accord là-dessus... On dit, à défaut d'accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l'article au-dessus sont accordées par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret dans la limite de 12 heures. Donc t'es pas content, t'as pas voulu négocier 10 heures, mais je vais te mettre 12 heures quand même et je vais te faire faire par l'administration.
Attention, 12 heures, hors temps d'habillage, hors temps de repas. Voilà.
Alors... Ça, c'est pour la durée journalière. Alors maintenant, 35 heures, là, c'est la durée hebdomadaire maximale. Alors là, on passe tout de suite au maximal. Hein. On ne te dit pas la durée hebdomadaire du travail, c'est 35 heures. Hein. Martine Aubry, je comprends qu'elle a dû faire des gros sauts quand on a entendu ça. Alors on te dit, article L31-21-20, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures. Tu passes tranquillement de 35 à 48 heures. Ça, c'est la loi, hein. Donc on est à 48 heures. en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celle-ci, donc on ne dit pas pourquoi, le dépassement peut être autorisé par l'autorité administrative dans la limite de 60 heures. Donc, 35 alors, par 2 égale 70, donc on passe 35, 48, 60.
Alors, je vais...
On n'est pas encore à la négociation collective. Hein,
non, mais... négociation, est-ce qu'il y a quelque chose à négocier ? Alors, attention, il y a quand même des métiers où les gens, en dehors de leurs heures de travail, doivent pouvoir répondre aux appels téléphoniques et autres, par exemple dans l'informatique, les gens qui gèrent les serveurs et autres applications informatiques. On appelle ça être d'astreinte. Ouais. Donc ils vont pouvoir travailler 60 heures par semaine au boulot.
C'est prévu.
Et après être réveillé toutes les heures pendant la nuit lors de leurs astreintes.
C'est bien prévu.
Et le temps d'astreinte ne sera plus décompté des temps de repos.
On est dans ce cadre-là.
C'est bien. Je veux dire, c'est... Donc, enfin, non, les temps d'astreinte pourront être décomptés des temps de repos. Ça veut dire que tu es bloqué chez toi.
Ouais.
Tu peux même pas aller chercher à bouffer.
Non.
Hein, voilà, bon, 60 heures plus les astreintes, plus...
Attends, c'est pas fini. Parce que
voilà.
Donc tu dis...
On n'en finit plus.
35 heures, donc c'est 48 heures. Mais c'est même pas 48 heures, tu peux aller jusqu'à 60 heures. Mais c'est pas fini. Attends.
Voilà. Plus ce que tu fais chez toi. Les
ça, pour l'instant,
contents,
c'est le cadre légal. Hein. Donc le cadre légal, c'est 44 heures. Maximum pendant 16 semaines consécutives, quand même. Hein. 16 semaines, 44 heures, je pense que tu as déjà fait un certain nombre d'heures qui te permettent de partir en vacances 3 semaines. D'accord, bon. Mais dans le champ de la négociation collective, on va beaucoup plus loin, puisqu'on dit une convention ou un accord d'entreprise, on revient toujours à ce fameux dialogue social. Qu'est-ce qu'on va dialoguer dans les entreprises françaises ? Je ne sais pas si tu vois. Hein. Un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire. Donc on peut prévoir. Sur une période de 16 semaines, ça peut passer à 46 heures au lieu de 44 heures. Donc là, on est à 46. Hein. Et il y a une disposition supplétive qui dit, mais à titre exceptionnel, dans certains secteurs ou dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dépassements de la durée de 46 heures peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret. Donc en fait, il n'y a plus de temps de travail.
Il n'y a plus que du temps de travail.
Il n'y a plus que du temps de travail. On est à peu près d'accord avec ça. Et ça... ça peut toujours tranquillement se faire dans le cadre de ces limites 46 heures, etc., etc. Bon. Alors quand même, on arrive à la section 3 et on dit d'ordre public. Hein, tu vois, c'est après les deux pages que je viens de te citer d'articles qui te disent que tu peux bosser jusque 10 heures, que tu peux faire 46 heures par semaine, que ça peut durer pendant 16 semaines d'affilée. Tout ça, c'est cool. Hein, mais tu as déjà oublié ça. Et puis on te dit, mais ouais, la durée légale du travail des salariés à temps complet fixés à 35 heures par semaine. Ça, il faut attendre la page 13 pour savoir ça. Toute heure accomplie au-delà donne droit à une majoration salariale ou un repos compensateur. Bon, donc là, on dit, oh, c'est cool, hein, c'est bien, bon. Ceci étant, champ de la négociation collective, jusqu'à présent, les heures supplémentaires, c'était 25% et 50%, hein, si j'ai bonne mémoire. Et là, champ de la négociation collective, une fois que tu as fait ça, on te dit, une convention va pouvoir fixer le taux de majoration des heures supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on te dit maintenant, bah, tu vas me bosser 46 heures, petit bonhomme. Et puis bon, comme je suis gentil, je vais te donner des heures supplémentaires. Je vais te les payer. Combien je te les paye ? Mais c'est un accord.
5% de plus ?
Ah non, non, quand même, ils ont été gentils. Ce taux ne peut pas être inférieur à 10%.
Ah ben c'est pas mal, 10% de plus 10% pour travailler plus de...
Pour 40, par rapport à 46 heures, je ne sais pas si tu vois, mais entre les 10%, les 25% et les 50%, 46 heures, tu étais tout de suite à 50. Hein. Donc là, on te dit, ben, tu passes de 50 à 10 et tu n'as pas intérêt à râler quand même. Hein, bon. Et on définit le contingent, tout ça, c'est les accords d'entreprise. Et donc la convention d'accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution tranquillement, sur les prises de repos consommateurs, sur compensateurs, sur les niveaux de rémunération supplémentaire, etc. Et puis, il y a des dispositions supplétives. Tu sais, ce fameux troisième palier, là. Et à défaut d'accord sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail, d'accord, donne lieu à une majoration de salaire de 25% sur chacune des 8 premières heures supplémentaires et à 50% pour le reste. Mais... l'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution. Ah bon ? L'employeur peut faire tout ce qu'il veut, en fait. Et donc, si on a des aménagements de temps de travail, on peut, sur 3 ans, faire à peu près ce qu'on veut dans une entreprise. Parce que tu vas passer maintenant à un article 31-21-40 d'ordre public. Lorsqu'il est mis en place un dispositif d'aménagement du travail sur une période de référence, cette période de référence, elle peut déjà atteindre 3 ans. Elle ne va pas dépasser 3 ans. Mais ça veut dire que tu emploies un salarié. Normalement, il fait 35 heures par semaine, etc. etc. Et donc, tu dois lui payer des heures supplémentaires. Sauf que tu peux signer, dans le cadre de la négociation collective, un accord d'entreprise qui va te permettre de dire, dans cette période de référence, on va pouvoir fixer à peu près comme on veut l'étalement des heures, de telle façon qu'en période haute, en période basse, etc., tu viens ou tu ne viens pas travailler en fonction de ce que je te demande, moi. Donc, tu vas avoir des périodes d'embauche, de désembauche. Et on aura tranquillement un système qui permettait, comme au 18e, au 19e siècle, d'embaucher, de désembaucher à la fin de la journée, pratiquement.
Non, c'est ça.
Donc, on est bien là. L'accord, il s'applique, bien entendu, y compris aux salariés à temps partiel. Donc, même les gens, ils sont pénalisés par le temps partiel. Mais en plus, on peut leur appliquer cet accord sur l'étalement du temps de travail en fonction des besoins de l'entreprise. C'est quand même assez incroyable.
Alors, on remarquera qu'en Angleterre, aux États-Unis, ils reviennent là-dessus. Hein, les contrats zéro heure, tout ça, en Angleterre, vont être supprimés. Salaire minimum augmenté. Enfin, on en reparlera peut-être après.
Et l'accord, il peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Ça c'est...
La rémunération est indépendante de l'horaire. Réel. Je suis payé à l'heure.
Voilà. À défaut d'accord, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines. Donc, il se débrouille. Et puis, t'as intérêt à t'exécuter. Hein.
Fait ce qu'il veut, comme il veut.
Voilà.
Après, les employeurs, ils font du jus de citron, même avec la plure. Hein,
mais tu vois, ça, c'est... Après, si t'es pas encore content, tu peux même avoir des horaires individualisés maintenant. Et donc, ça, d'ordre public, tu vois, on te dit, ici... ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Signez-la.
Signez-la.
Au revoir.
Ou vous êtes fusillé. D'accord. Donc, le libre choix du salarié. Mais de qui on se moque dans ce genre de truc?
Des salariés.
Par exemple. Donc, après, tu as des tas de trucs sur les conventions de forfait, machin comme ça.
Forfait, c'est un excellent mot.
Oui, forfait, c'est forfait. Et puis, tu as plein de petites dispositions comme ça, sur le fractionnement, le report, avec toujours la négociation collective, d'ordre public. Mais en fait, tout est conventionnel maintenant. Et si c'est pas conventionnel, si tu arrives pas à trouver un accord, tu te retournes vers l'autorité administrative. Si c'est Hollande, l'autorité administrative, je doute fort qu'il donne raison aux salariés. Hein,
donc, François Trans.
Monsieur Trans, oui.
Monsieur Trans. Ouais.
Donc, tu vois, ici, on dit, quand tu as un accord qui a prévu un certain nombre de dispositions pour l'employeur sur la négociation collective, ouais, tu peux proposer à un salarié un temps partiel, un emploi à temps complet, ou d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa, donc même chose, ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet équivalent. Donc, ici, ça veut dire que si tu refuses de bouger, tu sors.
Voilà. Pour créer des emplois, voilà. Il faut pouvoir licencier.
On va pouvoir tranquillement faire ça comme on veut. OK ? Donc, c'est assez amusant tout ça, si on peut dire. On va passer à notre...
Alors, cette loi, comment dire, elle va pouvoir être appliquée par les employeurs, c'est-à-dire les gens qui siègent au MEDEF, par exemple.
Moi,
tiens, j'ai un document sur France Inter où Guillaume Meurice, il a interviewé le président du MEDEF dans le département de la Somme, Jean-Claude Oleski. Donc, c'était le 19 janvier, hein, c'est un document récent. Alors, Guillaume Meurice interview Jean-Claude Oleski, président du MEDEF du département de la Somme.
Je vais vous parler de la bataille pour l'emploi menée par François Hollande. Les guerres et les batailles, c'est son truc à François, on le sait. Mais on a quand même l'impression que c'est plus facile d'aller péter la gueule à trois bédouins au fin fond de la Syrie que de pousser Pierre Gattaz à partager sa terrine aux truffes, hein, quand même. Il y a pourtant des citoyens qui se battent sur le terrain pour préserver leur emploi. C'est le cas, par exemple, des salariés de Goodyear à Amiens, dont certains ont été condamnés à 9 mois de prison ferme pour la séquestration de 2 cadres dirigeants. Et moi, j'ai voulu donner un droit de réponse au patron. J'ai appelé Jean-Claude Oleksi, le président du MEDEF du département de la Somme, où se situe donc la fameuse usine Goodyear. Qu'est-ce qu'il pense donc de ce verdict ?
Bon, il y a une séquestration quand même qui a duré 30 heures sur deux personnes avec un certain nombre de brimades qui ont circulé.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme brimades ?
Vous avez des noms d'oiseaux qui fusent, vous avez un certain nombre d'éléments. Faut pas croire que c'est gentil, aussi gentil qu'on veut bien le dire.
Effectivement, des brimades et des noms d'oiseaux, on comprend mieux tout de suite les 9 mois fermes. Ils sont un petit peu cons, ces syndicalistes aussi. S'ils avaient piqué dans la caisse, on leur aurait donné la Légion d'honneur. Vous auriez été élu à Levallois-Perret. S'ils avaient violé des femmes de chambre, ils auraient été invités dans les loges de Roland-Garros. Mais non, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Des brimades et des colibets. Oh, les cons ! Oh, c'est vraiment des réflexes de pauvres. Ridicule, ridicule. Bon, alors, ce réflexe, est-ce qu'il ne pourrait pas tout de même être considéré comme une légitime défense suite à la perte de leur emploi ?
Ah ben non, c'est pas une légitime défense. Attendez, voilà, attendez. Une légitime défense, en plus, le directeur de production et le DRH étaient des salariés comme les autres.
Ah, vous trouvez que c'est des salariés comme les autres ?
Ben oui, ce sont des salariés comme les autres dans une entreprise, bien sûr. Seulement, ils ont un boulot à faire qui est différent des autres, c'est tout, mais ce sont des salariés.
Ah oui, ils fabriquaient pas des pneus quand même.
Ben non, mais ce sont des salariés comme les autres.
Mais les cadres dirigeants sont des salariés comme les autres, il faut le dire, avec les mêmes vies que les autres, au champ pour faire les courses le samedi après-midi. Alors eux, c'est aux Champs-Élysées, mais bon, ça revient au même, c'est aux champs quand même, on va pas pinailler. Alors peut-être si, bon, si on veut pinailler, parlons du salaire de ces ouvriers bientôt licenciés.
Les salariés dont on parle là chez Goodyear avaient des salaires convenables au niveau de leur rémunération.
Qu'est-ce que vous appelez un salaire convenable ?
Ben, ils étaient, je veux dire, dans la moyenne des rémunérations, ils étaient rémunérés d'une manière qui était... et ils risquent d'avoir des difficultés à trouver les mêmes salaires.
Mais oui, mais alors c'était quoi comme rémunération ?
Ah ben, je vais pas vous donner de salaire au risque de dire des bêtises.
Oui, c'est vrai qu'il y avait un risque. Il y avait un risque de dire des bêtises. Ça aurait été dommage, vu que depuis le début, il dit que des choses brillantes. Ça aurait quand même été ballot. Mais pinaillons, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste un petit, mais alors minuscule problème au niveau des inégalités ?
Mais non, mais vous voyez, les inégalités, il y en a plein tous les jours, monsieur, donc... vous savez, c'est quoi les inégalités ? Vous voulez que tout le monde soit égal ? On a un véritable problème en France, quand même. On veut que tout le monde soit égal, que tout le monde chose du 42, que tout le monde...
Mais non. Ah non, je parlais pas des pointures de chaussures.
Oui, mais tout le monde ne peut pas être égal, monsieur.
Non, mais je parlais des salaires. On s'est mal compris.
Non, mais attendez, encore une fois, ça vous choque pas qu'un footballeur gagne 3 millions d'euros par an, voire...
Comment vous savez que ça me choque pas ?
Ben, je sais pas.
Ah oui, non, il sait pas. Il sait pas que moi, je suis quelqu'un qui me choque assez facilement. Je suis un petit peu le Jean-François Copé de la chronique, mais ça, il pouvait pas savoir. Jean-Claude. Bon, toujours est-il qu'il justifie assez facilement les inégalités, il a bien raison. Est-ce qu'il justifie aussi la pression et la toute-puissance des actionnaires sur ce type d'entreprise ?
Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, monsieur. La pression, non, mais attendez, la pression des actionnaires, attendez, bien souvent, alors quand vous voyez un petit peu la bourse, il y a les actionnaires sont même dilués dans la population, puisque bon, je veux dire, je vois pas où est le rapport.
Non, nous non plus. Là, on voit pas bien le rapport, on voit même pas très bien où il veut en venir. Mais à mon avis, c'est brillant. C'est nous qui sommes cons. Il y a pas de raison qu'à un moment donné, ils disent n'importe quoi. Donc, j'invite tous les économistes à se pencher sur la notion de dilution des actionnaires dans la population. Il y a tout un champ d'investigation à exploiter. Exploiter comme le serait, selon certaines mauvaises langues, les petits salaires. Alors, Jean-Claude, est-ce qu'il y aurait tout de même pas un petit souci, un léger souci de rapport de force ?
Non, mais attendez, le rapport de force, on est toujours libre de quitter son entreprise pour aller travailler ailleurs, si vous voulez.
Ah oui, mais si on retrouve pas de travail, c'est un problème quand même.
Ah mais non, mais attendez, mais on est toujours libre. Il y a une liberté qui existe, donc...
Bah on est libre d'aller dormir dans la rue, c'est ça que vous me dites.
Mais non, mais attendez, je crois que on est... C'est très facile d'avoir votre raisonnement.
Pardon, excusez-moi Jean-Claude, mais c'est vrai, j'ai tendance à avoir des raisonnements faciles. J'ai tendance, je l'avoue, à considérer que quand on parle de pognon, ce sont toujours les mêmes qui payent et toujours les mêmes qui encaissent. J'aurais tendance, moi aussi, à vous traiter de nom d'oiseau, l'espèce qui vous caractérise le mieux étant définitivement celle des rapaces.
Guillaume Meurice.
Voilà, vous écoutez Radio Campus Lille, on vient de vous passer un extrait de France Inter. C'est l'émission BCE, leurs bons calculs économiques. Alors notre conseil du jour pour les petits actionnaires, investissez dans l'industrie du mouchoir.
Oui,
oui, ça va être nécessaire avec... les ventes vont augmenter avec
ça
les
va être un peu
lois,
dur, oui.
Avec la destruction du code du travail.
Bon.
Donc on a regardé sur la durée du travail et sur les heures supplémentaires qui pourront résulter. Donc contrairement à tout ce qui est raconté, on est bien dans le cadre où les 35 heures, c'est fini. Les conventions vont faire tout ce qu'elles veulent. Alors maintenant, ça c'est dans un cadre qui est prévu au titre 2 de cette fameuse loi. Donc le titre 2, pour toujours Madame Ockrent et Monsieur Alain Duhamel, c'est à partir de la page 79. Hein. Donc on favorise une culture du dialogue et de la négociation. C'est pas beau ça ?
Faut faire gaffe quand ils favorisent la culture. T'as vu ce qui arrive aux agriculteurs.
Exactement. Donc on est sur un truc, bon. Alors tu vois, la convention, l'accord définit le calendrier des négociations, etc. Donc les thèmes sont mis à l'ordre du jour, ainsi de suite. Alors tu vois, il peut y avoir des soucis sur les indications qui sont contenues, mais on dit maintenant, l'absence de préambule n'est pas nature à entraîner à la nullité des accords ou des conventions, donc on peut faire n'importe quoi, ça n'entraîne pas la nullité. Avant, quand tu faisais un accord, oui. S'il y avait un vrai problème, tu pouvais aller voir ton avocat et te dire, cet accord, il n'a pas satisfait à telle condition. Bon, mais maintenant, tout ça n'a pas grande importance, hein, donc on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et de toute façon, si tu veux aller voir cet accord, tu peux toujours courir, parce que l'employeur peut s'opposer à la publication d'un accord.
Ah bon ?
S'il estime que sa diffusion serait préjudiciable à l'entreprise. Ah bah bon.
Mais on a un accord.
Non.
Alors, c'est comme le TIPP, quoi.
Ouais, en gros, ça me rappelle furieusement, si tu veux, ce que tu vois dans les comptes publiés au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc.
Oui.
Où marqué, ça peut porter préjudice à l'entreprise, donc nous ne publions pas un certain nombre d'informations, tu vois, sur la rémunération des dirigeants, sur les principales filiales, etc.
Ah, c'est vrai que ça porte préjudice à l'entreprise.
Ça porte effectivement préjudice à l'entreprise. Bon. Alors, tu dis renforcement de la légitimité des accords. Alors, c'est fait par quoi le renforcement de cette légitimité ? Référendum, monsieur. On te dit, si jamais les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les syndicats, on sait bien que les syndicats, c'est des mauvais coucheurs. Et donc, ces mauvais coucheurs, il faut les dépasser une bonne fois pour toutes. Donc, on te dit, donc ça, c'est l'article 2232-12. On l'a modifié. Deuxième alinéa est remplacé par une série d'alinéas. Si la condition n'est pas satisfaite pour l'accord avec les syndicats, et que l'accord était assigné à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages, en faveur d'organisations représentatives au premier tour, etc., on peut indiquer qu'elle souhaite des consultations des salariés.
Voilà. Tiens, j'ai un document de quelques dizaines de secondes sur le référendum du futur.
Ouais.
Madame la ministre, la loi sur le travail provoque un véritable tollé dans les médias, et une pétition contre cette loi est déjà en ligne. Pensez-vous que vous réussirez à convaincre les Français ?
Je comprends les doutes et les craintes. Mais nous allons avancer tous ensemble. Avec Manuel Valls, nous avons mis en place un système révolutionnaire pour que chaque Français puisse exprimer sa colère tout en restant bienveillant.
Voilà qui est ambitieux. Et quel est donc ce système ?
Eh bien, c'est très simple, le voilà.
C'est un pot de confiture vide.
Je vous présente le référendum du futur. Grâce à cette méthode, chaque Français va pouvoir dire tout haut ce qu'il pense de nos réformes. Le dire tout haut dans le bocal, regardez.
Ouh, méchant Manuel Valls, bouh, bouh, c'est pas bien ta réforme, je suis pas content, bouh, je donne mon avis, bouh.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles.
Voilà, excusez cette petite interruption, c'est un document d'Arte, le référendum du futur.
C'était quand même un beau référendum, quoi. C'est à ça qu'on va assister en fait.
C'est exactement ça, oui.
Et donc, mais ne t'en fais pas quand même, parce que t'as le chapitre 3 qui te dit que les acteurs du dialogue social vont être renforcés. On est bien content pour eux. Donc, Alors après, tu vois, tu vas même avoir des données complémentaires qui vont pouvoir former les acteurs à la négociation collective. Donc, il est prévu des tas de dispositifs. Et alors, après, on va sécuriser le parcours des gens, ainsi de suite.
On va sécuriser le parcours des gens avec la police ?
Par exemple. Donc, ça peut être pas mal. Hein. C'est nouveau aussi, ça vient de sortir, comme disait Coluche.
Comme la visite de notre président de la République au Salon de l'Agriculture.
Oui.
J'ai bien aimé, parce que d'abord, il y avait le président, et autour de lui, il y avait 200 ou 300 personnes. Donc, il y avait peu d'agriculteurs. Mais enfin, ils ont quand même fait du bruit. Hein.
Absolument.
Vous l'avez entendu au début de cette émission. Il y a eu des noms d'oiseaux qu'on volait. Alors, j'informe quand même que moi, les documents sonores, je les ai trouvés sur des radios ou des télévisions étrangères. Qu'en France,
on les trouve pas.
Mais non, les médias ne sont pas retrouvés dans notre pays. C'est en Iran que ça se passe ou en Chine.
Ouais. Alors justement, on arrive à un autre sujet qui fâche, c'est sur les licenciements. Alors là encore, tu as de l'ordre public et puis après, tu as négociation collective. Alors d'ordre public, c'est quoi un licenciement pour motif économique maintenant ? Alors on te dit... difficultés économiques caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, ah bon, pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période l'année précédente, soit des pertes d'exploitation. Bon, ça, a priori, bon, ça peut être un motif de licenciement économique tel qu'on le comprend encore maintenant. Soit par une importante dégradation de la trésorerie. Je ne vois pas en quoi la dégradation de la trésorerie est synonyme de, donc, de perte.
Je fais un chèque à une autre société, par exemple, société, puis donc, voilà.
Soit, mais c'est là que c'est amusant, par tout élément de nature à justifier ces difficultés. Donc on te dit, il y a ça, mais tu peux trouver tout à fait autre chose, et ça sera aussi un licenciement économique à partir du moment où tu dis, bah, c'est ça. Alors, bien entendu, tu as les mutations technologiques. Attends, super ça. Tu peux licencier si tu as une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
C'est ce que fait Auchan voilà. Tous les 6 mois.
Alors attends, par exemple, attends, sauvegarde de compétitivité, ça veut dire quoi? Excuse-moi, je suis économiste.
Elle se noie, la compétitivité?
Je suis économiste. La compétitivité, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu es compétitif par rapport à des Chinois?
Est-ce que tu... C'est pas dans la Constitution, la compétitivité.
Bah, je ne sais pas, je ne pense pas. Hein. Je n'ai pas vu ça dans la Constitution encore.
Bon,
ça,
excuse-moi.
Mais ça sera dans le Code du travail. Et on est sur un système où tu peux être compétitif. Les agriculteurs ne sont pas compétitifs en ce moment. Donc, on licencie pour motif économique. Ils n'ont pas à râler, en fait.
Ils vont licencier leurs vaches.
Bah ouais, par exemple. Donc, ils ont affaire à des cultures intensives, ils ont affaire à des fermes de 1000 vaches, etc. Mais ils n'ont qu'à s'y mettre, enfin. Ils ont commencé par la PAC il y a une quarantaine d'années, ils peuvent continuer à nous donner de la malbouffe. Hein, parce que les paysans qui râlent, d'accord, mais il faut savoir lesquels qui râlent. Hein, alors, on met toujours en avant les pauvres petits qui, effectivement, là, il y a de quoi verser des larmes. Mais derrière, il y a combien de gros qui s'en mettent plein les poches et qui profitent de cette situation-là. Même chose pour Charal, avec Bigard, qui est une des plus grosses fortunes de France aussi. On arrête un peu, quand même. Donc, faire verser des larmes dans les chaumières avec un exemple bien pris comme ça, la presse sait vraiment faire. Et donc nos profs agriculteurs, même si c'est eux qui nous ont donné de plus en plus de malbouffe quand même. Et c'est quand même bien eux qui critiquaient José Bové quand il démontait un McDo, quand il défendait la bonne bouffe, etc. etc. C'est quoi la bonne bouffe?
Et puis,
à quel prix?
Il s'attaque aussi à ceux qui essayent de défendre les terres agricoles.
Par exemple. Hein,
parce qu'on veut construire des pseudo-barrages.
Exactement. Voilà, il y a les pseudo-barrages. On a aussi la grande version d'Auchan dans le triangle de Gonesse qui va encore bouffer des milliers d'hectares de terres agricoles.
Alors,
etc.
Ça, c'est bien. Auchan a trouvé du financement auprès des Chinois.
Par exemple. Et donc, on est avec l'aide de la région Île-de-France là-dedans.
Oui, bien sûr.
Bon,
les impôts, oui.
Bon. Donc. Tu vois ici, ce qui est très bien, hein, la matérialité de la suppression de la transformation d'emploi est un élément qui s'apprécie au niveau de l'entreprise. Donc tu as un groupe mondial, ça s'apprécie en France sur la petite unité de production que tu as là. Donc tu l'as mis en faillite.
Tu transfères ta trésorerie
par
côté,
exemple.
Voilà.
Ta trésorerie, tu la mets au Liechtenstein ou tu la mets au Luxembourg, il n'y a plus de trésorerie. Oh ben, je suis obligé de fermer, mon monsieur, vous comprenez bien. Je vous licencie, c'est un motif économique. Alors après, je ne te dis pas qu'est-ce qu'on te prévoit sur les indemnités en cas de licenciement économique. Hein. Tu sais, ça fait polémique. Page 105, Madame Ockrent. L'ancienneté du salarié d'entreprise inférieure à 2 ans, tu as droit à 3 mois de salaire. Sympa, hein. Sympa. Si l'ancienneté est entre 2 ans et 5 ans, 6 mois. L'ancienneté du salarié est 5 ans à 10 ans, 9 mois. Si l'ancienneté du salarié est moins de 10 ans et moins de 20 ans, 12 mois. Et après, c'est supérieur, 15 mois. Attention, l'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant des indemnités de licenciement légal, conventionnel ou contractuel. Donc tu penses que tu vas avoir plus que, si tu es dans le dernier cas, plus de 15 mois. Pas du tout.
C'est interdit.
Ah bah attends, cette indemnité est cumulable dans la limite des montants maximum prévus au présent article. En tout état de cause, tu peux te faire harceler sexuellement, etc. dans ta boîte. Si t'as moins de 2 ans, t'as 3 mois de salaire au maximum.
Voilà, mais ils peuvent signer un accord d'entreprise pour réduire.
Exactement. Et donc on est sur un article là qui est quand même assez particulier. Donc les gens, ils vont se retrouver sans aucun problème, même en cas de licenciement abusif. Hein. Tu vois ici, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité, sympa, correspondant au préjudice subi, dans la limite fixée par l'article en question dont je viens de parler avec les mois qui sont lancés avec un élastique. Donc, de qui on se moque là? Donc, le groupe, il peut faire ce qu'il veut. La négociation collective, elle incite ça encore plus. Tu vois, les durées de perte d'exploitation caractérisent des difficultés économiques qui ne peuvent être inférieures à un trimestre. Bah, tu parles. On arrête, là, depuis la crise qu'on connaît en 2008, tout le monde peut licencier tout le monde. Hein, donc,
C'est fait pour.
C'est fait pour. Et en outre, à défaut de convention ou d'accord collectif, donc tu as toujours ton troisième niveau qui arrive après, la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires caractérise les difficultés et de 4 trimestres consécutifs. Bon, bah d'accord, les pertes d'exploitation, même chose, un semestre. Donc on te prévoit toujours des exceptions aux exceptions aux exceptions. Donc on va malgré tout, grâce à ça, pouvoir te renforcer après, on va te donner de la formation et l'accès à la formation. Donc quand on regarde un petit peu ce montage complet de la loi El Khomri, on est sur des éléments qui sont quand même assez incroyables. Donc le gouvernement prévoit déjà dans cette loi, page 117, à l'issue du délai prévu pour le passage de ça, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance.
Malade. Le travail est malade en France.
Toute mesure législative s'appliquant, à défaut d'accord de branche dans les branches qu'elle détermine. Donc ça veut dire que, tu sais, tes fameuses dispositions particulières du troisième niveau, c'est toujours avec l'autorité administrative. S'il n'y a pas d'accord de branche, parce qu'il y aura toujours des syndicats qui contestent, enfin c'est incroyable, dans une situation comme le monde où on est avec la liberté, où on est avec plein de choses comme ça, c'est pas concevable que des syndicats restent aussi ringards, si tu veux. Hein, ils doivent être ouverts au monde. Enfin,
C'est ce qu'ils disent pour appliquer leur programme qui date du millénaire précédent.
Voilà, c'est ça. Et donc, la liberté qu'ils prévoyaient d'appliquer déjà au XVIIIe siècle. Hein.
Oui, bien sûr.
Et donc, ces braves gens, ben, on va prendre ça par ordonnance. Ah bon, l'ordonnance. Alors, tu vois là, par exemple, sur le PSE, lorsque le plan de PSE, c'est les plans de sauvegarde de l'emploi, parce qu'on appelle ça des plans de sauvegarde de l'emploi. Quand on te vire,
oui.
T'as droit à un plan de sauvegarde. Hein.
Mais non, mais tu comprends pas. Pour créer des emplois, faut en supprimer.
Oui, mais...
Pour sauvegarder des emplois, faut en supprimer.
Alors, tu vois, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou plusieurs entités économiques, etc., l'article en question ne s'applique que dans la limite des emplois qui n'ont pas été supprimés par suite de licenciement. Ah bon ? C'est incroyable de voir des trucs pareils. Donc, Madame Ockrent, on a bien lu votre petite loi. Si on regarde et si on conclut le système, tu vois, un troisième alinéa, l'obligation de classement des salariés, par exemple, qui sont malades, maladies professionnelles, est réputée satisfaite lorsque l'employeur a prévu et a proposé un poste prenant en compte les propositions définies par le médecin du travail. Donc le médecin du travail, ça va être quoi ? Ça va pas être grand-chose. Hein. Donc on va avoir encore ici, compte tenu du nombre de médecins du travail en France et compte tenu du boulot qu'ils sont en train de faire, et même chose pour les inspecteurs du travail, parce que là aussi ça va bouger, on va avoir des informations qui vont être totalement biaisées au niveau de l'entreprise.
Et le fait qu'on fait tourner le personnel à une vitesse ahurissante,
bah oui.
Hein, il n'y a plus que des contrats d'intérimaire, donc le médecin du travail, il va être complètement saturé.
Bien évidemment. Bien évidemment.
Il nous reste encore 30 secondes pour conclure.
Pour conclure, abrogation de cette loi dite sur le travail. C'est une loi anti-travail, c'est une loi anti-salarié. Et bien évidemment, le 9 mars, tout le monde au manif et on arrête cette loi. Et...
Voilà, va falloir se bouger, les gars.
Point barre, absolument.
Enfin, les gars et les dames aussi.
Allez-y.
Eh bien voilà, on va vous quitter avec une chanson d'actualité, une chanson de Riss et Barrier, parce que soi-disant, il n'y a plus de sous. Enfin, il n'y a plus de sous pour nous, mais... Il y en a beaucoup pour certains.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous, on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules, maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôts. Oli, vache, bon sang, bon frère.
Y'a plus de sous, papa. Y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa. Y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole de nez et cochon qui s'en dédie.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos bics, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Oli, vache, bon sang, bon jouet.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants. Oui, la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons. Mais l'important, c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon.
Ah oh, ouais, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit ça, le grand-père a ben failli claquer.
Oh. Bon sang, bon jouet, y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un chou, ça n'est plus un chou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un chou, ça n'est plus un chou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent.
Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher, les petits voyages en Suisse.